Je suis assez d'accord avec la déclaration de François Hollande. Je pense que d'une manière générale, nous avons besoin peut-être d'une politique étrangère un peu moins vocale et un peu plus discrète. Parce que concrètement, l'hypothèse avancée par Emmanuel Macron d'un envoi de troupes au sol impliquerait que l'ensemble des pays européens nous suivent et donc que l'on se concerte avant d'émettre une telle hypothèse. Or, on voit bien qu'Emmanuel Macron n'a pas été suivi. Moi, j'ai pas de problème avec le fait que la France affirme sa personnalité géostratégique pour ensuite dessiner un sillage dans lequel nos alliés européens vont nous suivre. En 2003, nous étions seuls au début à dire non à la guerre en Irak, et puis les Allemands nous ont suivis. Mais il y avait une forme de crédibilité parce que la France pouvait directement agir au Conseil de sécurité des Nations Unies. Or là, pour agir sur le théâtre russo-ukrainien, envoyer des troupes au sol ne s'imagine que dans le cadre d'une coalition. Et donc, une coalition qui embarquerait les autres armées européennes, dont l'armée allemande, ou ce qu'elle constitue aujourd'hui.
Est-ce qu'une efficace, c'est certainement pas de dire matin, midi et soir, comme le font notamment les Américains, nous n'enverrons pas de troupes, quoi qu'il se passe. Parce qu'à ce moment-là, le message pour Vladimir Poutine, c'est « tu peux y aller ». Tu peux y aller. On envoie des armes, on n'envoie pas trop. Ça veut dire qu'on va pas trop s'en mêler. On va pas trop s'en mêler. On soutient les Ukrainiens, mais sans aller trop loin. Or, moi, ce qui me frappe, c'est que le président de la République dit une chose, mais archi banale et nécessaire dans tous les états-majors dans une situation de guerre ou d'approche de guerre. Non, on ne dit jamais...
C'est pas banal.
Mais si, bien sûr que c'est banal. Parce qu'on ne dit jamais à l'adversaire, on ne fera pas ça. Jamais. Jamais. Il ne faut
pas dire...
Pas.
Vous dire il dit qu'il ne l'exclut pas.
Il dit je n'exclus pas.
Alors. Une grande confusion entre envoyer des troupes au sol, parce que tout le monde, aussi en France, a compris que c'était des troupes de combat, qu'on allait entrer dans une phase active de la guerre. Et puis, à partir de mardi matin, il y a eu plus de précision là-dessus que ce n'était pas vraiment ça. Enfin, Scholz, donc c'est dans la tradition allemande, de la doctrine de la défense allemande, qu'on ne veut pas entrer en guerre. Lui, c'est que je trouve très critique. Il a l'extrait qu'on a vu, c'est d'une vidéo qu'il a enregistrée mercredi soir, qui a été diffusée, je crois, mercredi ou jeudi. Donc, enfin, jusqu'à jeudi, il a fait comme s'il y avait eu la demande d'envoyer des troupes de l'OTAN ou de l'Allemagne en guerre. Ce qu'il savait déjà que ce n'était pas le cas. D'ailleurs, il y a des gens, des militaires aussi sur place.
Mais il y a un vrai désaccord franco-allemand, quand même, qui est spectaculaire, en l'occurrence.
Assez dramatique, je trouve. De toute façon, c'est pas un secret, c'était pas une surprise que les deux stratégies de défense sont vraiment très contraires. Scholz, il a fait, je crois que puisque tout d'abord, il est vraiment convaincu que l'Allemagne ne doit pas aller dans ce sens. Deuxièmement, il a fait, puisqu'il sait qu'une grande partie de l'opinion publique allemande est sur son côté.
Les citoyens allemands ont soutiennent sa prise de position.
Selon les derniers sondages, 58% des Allemands sont contre l'envoi des Taurus.
Les Taurus, ce sont les missiles de longue portée. Voilà.
Quand je disais qu'on a besoin d'une diplomatie sans doute un peu moins vocale, c'est parce qu'on a besoin d'avancer sur des dossiers très concrets. Si l'on veut, en effet, doter l'Europe d'une capacité d'action, y compris, bien sûr, pour s'opposer à la Russie. Sur la question, par exemple, des budgets de défense, on a besoin que chaque État s'engage à augmenter, à accroître l'effort budgétaire en matière de défense. Il y avait une proposition que la Pologne avait mise sur la table, la Pologne du temps des conservateurs, certes, mais qui a été quand même très offensive en soutien à l'Ukraine, proposait que le budget de défense sorte des critères de Maastricht. C'est une proposition très concrète que la France pourrait endosser. On a aussi besoin peut-être de rendre accessible la finance durable aux industries de défense. Il y a tout un ensemble de dossiers concrets où nous aurons besoin de nos alliés européens. Et je crains que ce type de position ne crispe un certain nombre d'alliés et que cela nous empêche d'avancer concrètement. Là, je ne vois pas en quoi cette prise de position peut justement nous faire avancer sur ce dossier.
Remarquez que le président Macron a employé le futur. Il n'a pas dit aujourd'hui nous sommes lâches. Ah non, non, non.
Oui, mais le mot n'est pas neutre. Faudrait pas être lâche. C'est un avertissement.
Je ne vous ai pas dit que le mot était neutre. Le mot est extrêmement important. Mais il ne dit pas aujourd'hui nous sommes lâches. Il dit si la situation continuait à s'aggraver, il ne faudrait pas être lâche, c'est-à-dire il faudrait relever le gant. Et d'une manière générale, pour répondre à votre précédente question, je crois qu'on sous-estime encore beaucoup dans les différentes capitales de l'Union. Excusez-moi, dans les différents États de l'Union, la mobilisation est vraiment énorme aujourd'hui, à la fois des capitales et des institutions européennes, je veux dire le Parlement, la Commission, naturellement le Conseil. Il y a, depuis la dernière déclaration spectaculaire de Trump sur le « j'encouragerai les Russes », etc., nous l'avons tous
entendu. – Attaquer un pays de l'OTAN.
– Attaquer un pays de l'OTAN qui n'aurait pas payé les 2% de son PIB en cotisation à l'Alliance Atlantique. Donc, depuis cette déclaration de Trump, qui a été un électrochoc, mais absolument inouï. Deuxièmement, Navalny, évidemment l'assassinat de Navalny.
Donc l'opposant,
et troisièmement, les légères, elles sont légères pour l'instant, mais réelles, progression des Russes sur le front. Si vous additionnez ces trois faits, il y a eu une mobilisation extraordinaire en l'espace de... Mais même pas un mois. Même pas un mois. Et qui est d'autant plus forte qu'il y a une montée très très forte depuis 5-6 ans dans l'Union, sur le chemin de l'affirmation véritablement de l'Union européenne en union politique. Le tabou sur la défense, il est tombé déjà il y a 5-6 ans.
Toujours, qu'est-ce que vous sous-entendez sous troupe? Enfin, je crois que, premièrement, la première réaction, c'est toujours troupe de combat. Enfin, c'est ce qui a été compris lundi soir, il y a une dizaine de jours. Évidemment, il y a des gens qui forment les soldats sur place, qui font la maintenance des équipements militaires. Et comme maintenant les Anglais en vaguement, mais quand même avoué, il y a au moins des Anglais, il y a d'autres sur place. Donc, en fait, les Anglais et les Français étaient quand même surpris que Scholz en parle. Là, c'était la programmation des missiles. Dans ce contexte, il en a parlé. Et c'était pas très discret et très habile de sa part. Oui, donc il y a des personnes sur place et on peut se demander, est-ce que Scholz, à la fin, est-ce qu'il n'a pas affaibli sa propre logique en disant que si on est sur place, ça va provoquer des réactions de la part des Russes une fois qu'on est sur place. Maintenant où on sait qu'on a des personnes sur place déjà et qu'il n'y a pas eu une escalade de la part des Russes, est-ce que c'est pas le contre-argument de dire c'est peut-être pas toujours un automatisme que ça provoque des réactions très violentes.
Bernard Guetta, est-ce que je crois tous les dirigeants européens ont, comment dire, imprimé, vous savez, ça se dit comme ça, je crois, dans les lycées, ils ont imprimé, ça y est, les Américains s'en vont. Ils s'en vont rapidement, grossièrement, brutalement, si c'est Trump, à petits pas, poliment, courtoisement, et avec un peu de discussion et de concertation, si c'est non seulement Biden, mais tout autre président américain. Mais ils s'en vont. Et on regarde, quand on est européen, quand on est chef d'État, ou quand on est d'ailleurs parlementaire européen, ben on regarde quoi? On regarde au sud, et on voit une situation de chaos au pluriel. On regarde à l'est, et on voit ce que nous savons. On regarde à l'ouest, et on voit les Américains qui
sont Gastineau.
Là. Ben brusquement, on se mobilise.
Gouvernement, c'est la vocation aussi de la France de prendre toute sa part dans un conflit qui concerne l'Europe. Si la question de mourir pour Kiev a été posée, c'est pas simplement parce que Marine Le Pen l'a posée, c'est parce qu'on a envisagé l'hypothèse d'une guerre longue, à haute intensité, qui implique des troupes au sol, mais aussi peut-être une armée de conscrits, ou des conscrits qui compléteraient les armées régulières. Ce qui pose la question du sentiment européen. Raymond Aron avait une manière de poser la question très intéressante en 1978 dans un entretien à l'Express. Il disait « La défense de l'Europe est-elle empêchée du fait du veto américain, du fait que dans les faits l'Europe est un protectorat militaire américain, ou du fait des Européens eux-mêmes qui ont perdu leur patriotisme national sans le remplacer ?» Et moi je crois que plutôt que de miser sur un hypothétique sentiment d'appartenance européen qui viendrait remplacer le patriotisme des États-nations, il faut réveiller les consciences nationales, mais les compléter par une conscience européenne qui transcendrait ces appartenances nationales.
Très concrètement,
qu'il faut ressusciter.
Très concrètement. Est-ce que ça ne participe pas justement de la nécessité de l'Europe de préparer sa défense sans le parapluie américain?
C'est quand même un argument assez paradoxal, parce que d'un côté, on dit l'OTAN est notre meilleure garantie de défense, donc il faut se féliciter que la Suède et la Finlande intègrent l'OTAN, et d'un autre côté.
La Suède a intégré officiellement l'OTAN aujourd'hui.
Et d'un autre côté, on dit. Poutine a l'intention d'aller plus loin, qu'importe au fond que les pays soient membres ou non de l'OTAN. Donc il faut savoir, est-ce que l'OTAN nous protège? Si l'OTAN ne nous protège pas, alors c'est la question de l'Alliance Atlantique qu'il faut également poser.
C'est pas contradictoire, ça. C'est pas contradictoire.
C'est tout à fait contradictoire.
Mais non, 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 puisque personne ne veut quitter l'OTAN.
Oui, mais.
Il reste, l'OTAN reste et la stratégie, et c'est pour ça que cette crise correspond d'un côté parfaitement à tout ce que Emmanuel Macron a voulu faire depuis 2017, une Europe plus indépendante, une politique de défense plus autonome, une plus grande indépendance par rapport aux États-Unis. Et moi, je crois que tout ce qu'il a fait maintenant, enfin, je suis très souvent très critique par rapport à ce qu'il fait, mais là, je crois que c'est sa méthode politique quand même de provoquer pour réveiller l'opinion publique et ses partenaires européens. Il a fait ça quand il a dit à l'automne 2019 « NATO is brain dead », le mort cérébral de l'OTAN.
La mort cérébrale de l'OTAN, oui.
Voilà. Donc je crois que maintenant, je me demande si ce n'était pas très volontaire que lundi soir, il a laissé les troupes au sol dans le vague pour réveiller tout le monde pour souligner l'urgence de la situation.
Mais je pense qu'on peut avancer sur l'Europe de la défense dans le cadre de l'OTAN. C'était pas ma question, mais on pose la question du fait de savoir si Poutine pourrait aller plus loin. Aller plus loin côté russe, ça veut dire affronter concrètement l'OTAN. Poutine est-il assez fou pour affronter une coalition euro-américaine? C'est ce que redoutent les pays baltes, mais je crois qu'il faut quand même se poser la question sérieusement, et ça ne me semble pas tout à fait sérieux d'envisager cette
attention, hypothèse. On a changé, comme dit le chancelier allemand, on a changé d'époque. Poutine peut regarder l'Alliance Atlantique et surtout la future Maison-Blanche, si c'était Trump, en se disant, mais en vérité, virtuellement, la question du parapluie nucléaire américain et de la protection otanienne ne se pose plus, puisque M. Trump vient de déclarer que non seulement il ne défendrait pas les pays européens, mais qu'il inciterait la Russie à venir nouvellement de l'OTAN.
On va forcer de pousser les oppositions à prendre position sur le sujet.
Bon. En politique, je crois que rien n'est indépendant. Enfin, je crois que je suppose que sa prise de position, cette initiative d'organiser la conférence de soutien à l'Ukraine dans très peu de temps, avec beaucoup de chefs d'État, n'était pas pour gêner le Rassemblement national. Mais puisque je crois qu'il est convaincu, aujourd'hui, apparemment...
Il n'y était pas il y a quelques mois quand il disait qu'il ne faut pas humilier...
C'était il y a deux ans.
C'est déboussolant quand même pour l'opinion.
C'était il y a 18 mois. C'est pas déboussolant. Pourquoi? Parce que à l'époque, quand il parlait de la nécessité de ne pas humilier la Russie, c'était de la nécessité de ne pas le faire après une défaite de Vladimir Poutine. C'est-à-dire de ne pas réitérer l'erreur historique colossale des accords de Versailles après la guerre de 14-18. Ça avait été une phrase très très mal comprise. Alors, véritablement.
Évolué sur la question russe. Il y a une tradition géopolitique française, plutôt russophile, pour le dire simplement, qu'a incarné Emmanuel Macron au début, notamment de son premier quinquennat. Donc on voit bien quand même qu'il y a l'intention de créer un rapport de force politique dans la perspective des élections européennes, avec un camp du bien qui incarne une défense vigoureuse vis-à-vis de l'Ukraine, et un camp du mal accusé de russophilie, qui incarnerait la vague populiste qu'on nous promet pour les prochaines élections européennes. Donc je crois qu'il y a aussi des considérations d'ordre électoral et d'ordre intérieur et politique du côté d'Emmanuel Macron. Et en même temps, il y a une évolution qui concerne l'ensemble du spectre politique français, Emmanuel Macron inclus.
Mais vous savez, je crois qu'il y a deux personnes qui ont commandé cet agenda politique. Ils s'appellent Trump et Poutine. Ce n'est pas Macron, en l'occurrence. Macron réagit à une évolution de la situation internationale qui, élection européenne ou pas, imposait les déclarations qu'il a faites, les mesures qu'il a prises. Enfin, il n'y avait pas d'élection européenne en juin. Je suis totalement persuadé que Emmanuel Macron ne saura pas les mêmes positions.
Non, mais bien sûr, une crise occupe tout le monde et plus important que toute autre chose et force aussi les différents partis politiques de prendre des positions non claires. Et c'est ce que Macron demande aux autres. Et en Allemagne, c'est pas différent. Et d'ailleurs, Scholz, je crois qu'il met aussi il y a trois élections dans les Länder à partir du mois de septembre. Donc s'il a pris cette attitude pacifiste, on pourrait aussi dire que c'est dans un but électoral. Mais ce n'est pas ça qui est à l'origine. C'est ça que je voulais corriger tout à l'heure.